Europe Soir Weekend, Pierre de Villeneuve.
Avec ce soir autour de la table, le directeur général de l'opinion, Ali Fop, Frédéric Dabi, Philippe Doucet, membre du bureau national du PS, Othmane Nasrou, porte-parole de Valérie Pécresse, Valérie Pécresse qui sera l'invité de la matinale d'Europe 1 demain à 8h13. Et j'accueille Pierre-Jean Batty, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes conseiller régional d'Île-de-France et délégué Modem à Paris. C'est comme ça dans cette campagne et c'est cela qui est bon. Ça peut partir un peu dans tous les sens. Il faut le dire, c'est un peu le cas hein, ce dimanche. Commençons par Jean-Luc Mélenchon, car c'était son premier meeting de l'année 2022. On a vu les choses en grand et toujours dans l'originalité. Meeting immersif et olfactif dans un grand cube installé à Nantes avec 3000 militants scotchés. On aurait pu vous passer les deux heures de discours, mais ce qui nous a intéressé, c'est ça.
C'est pas d'union dont on a besoin. C'est de clarté et de mobilisation populaire. Vous ne pouvez pas mobiliser si vous donnez l'impression que vous êtes un menteur qui va ensuite arranger ses carabistouilles dans un coin avec ses copains des autres partis. Je ne suis pas leur copain. Que cela soit dit une bonne fois pour toutes.
Voilà, je ne suis pas leur copain parce que Mélenchon l'a dit dès le début, tout comme Jadot qui, par l'intermédiaire de Rousseau, le redit encore. Non, c'est non, pas de primaire populaire, même si 7 noms ont été écrits de gré ou de force sur un papier et 120 000 électeurs potentiels ont déjà fait leur choix. Alors Christiane Taubira, qui prône depuis peu l'union de la gauche, renverse la vapeur.
La personne qui sortira de cette primaire est la personne qui symbolise, représente l'union de la gauche. Mais parmi les candidates et candidats de gauche, il y en a qui ont dit qu'ils sont prêts à gouverner ensemble, parce qu'ils voient bien les proximités de leur programme. Donc la question, ce n'est pas à moi que vous devez la poser.
Donc derrière
la
le
question,
vainqueur, tout le monde
c'est
doit
à
se
monsieur, c'est la logique d'un rassemblement. Et je répète que ça n'est ni une suggestion, ni une humiliation. Ceci étant, c'est à monsieur Mélenchon de dire s'il est disposé à gouverner avec les autres candidates et candidats de gauche.
Voilà, pourtant, il a dit ce qu'il a dit. Hein. Christiane Taubira, hier aux 20h de France, de Anne Hidalgo, qui la voulait, cette union de la gauche, qui la voulait finalement, hein, cette primaire populaire à la sortie d'un TGV, on s'en souvient. Ben finalement, les candidatures un peu tardives, voilà ce qu'elle en pense.
Ah, mais chacun peut être candidat comme il l'entend, mais arriver si tard, au moment où finalement chacune et chacun soutenu soit par des formations politiques, soit par des mouvements plus larges, parce que oui, je suis la candidate du PS, mais j'ai autour de moi aussi beaucoup de personnes, de personnalités de la société civile. Bref, arriver si tard avec une proposition qui ajoute une candidature, je crois que pas grand monde ne comprend aujourd'hui.
Voilà, Anne Hidalgo, aujourd'hui à midi sur BFM TV, réponse de la bergère à la bergère, Christiane Taubira.
Mais qu'est-ce que ça veut dire la responsabilité ? La responsabilité est individuelle. Est-ce que sur ces sujets-là, une personne peut, à partir d'actes précis, m'accuser et m'imputer une responsabilité sur un fait quelconque, sur des conséquences quelconques ? Ça n'est pas le cas. Donc, les paroles en l'air, générales, non argumentées, sont la responsabilité de ceux qui les profèrent.
Voilà. Vous l'aimez, mon feuilleton ?
Oui.
C'est quand même assez cocasse, non, Frédéric Dabi ?
Oui, bah on voit l'état du paysage de gauche à travers ces différents verbatims dévastés. Éclaté, 6 candidatures de gauche, si je compte pas l'extrême gauche, c'est un record. Il n'y avait que 5, entre guillemets, que 5 candidatures le 21 avril 2002. Notons que la dernière candidature de gauche en 2002, de gauche, non extrême gauche, hein, c'était Christiane Taubira, qui avait fait plus que ce qui avait manqué à Lionel Jospin pour accéder au second tour, même si, le discours a plus stigmatiser entre guillemets Jean-Pierre Chevènement que Christiane Taubira là-dessus.
Oui.
C'est vrai que dans toutes les enquêtes, Ali Fop a commencé, comme vous savez, son rolling quotidien, son enquête quotidienne, on a une gauche à un niveau historiquement bas, entre 23 et 25%, alors que la gauche existe.
Tout mouillé, comme on dit. Hein.
Tout mouillé, alors que la gauche existe. Ça aussi, ça fait jeune. Ouais. Alors que quand on interroge les Français sur leur positionnement sur un axe gauche-droite, ils sont 45% à se placer très à gauche ou au centre-gauche. Où sont passés ces 20 points ? Ils sont dans l'abstention et quand on entend ce type de discours, ça ne donne pas envie à des électeurs de gauche de se mobiliser. Ils sont chez Emmanuel Macron. On voit l'état de la gauche aujourd'hui. Alors c'est vrai que Christiane Taubira, au mois de décembre, avait dit « je ne serai pas une candidature de plus ». Force est de constater après sa prise de parole hier qu'elle n'a pas créé de distinction pour essayer de montrer en quoi elle était une candidature spécifique parce que son offre ressemble beaucoup sur toute une série d'aspects à celle de Jean-Luc Mélenchon, à celle d'Anne Hidalgo ou de Yannick Jadot.
Philippe Doucet, du PS.
Bon, écoutez, effectivement, c'est pas un spectacle. On va se relever la nuit pour dire qu'on confie nos génies. Hein. Bon. Le sujet dans cette affaire-là, on vient de l'entendre avec Jean-Luc Mélenchon. Vous n'avez pas passé Yannick Jadot, mais enfin, il dit la même chose.
Oui, oui, bah, je l'ai cité.
Même chose.
Vous l'avez cité.
Bon. Quand Anne Hidalgo fait cette proposition de primaire, elle n'entend pas obligatoirement simplement la primaire populaire. Parce qu'il y a un mot, en fait, finalement, la primaire populaire, c'est plus une consultation. C'est-à-dire qu'il faut que nos auditeurs ils comprennent bien. En fait, il n'y a pas une urne dans laquelle on met le bulletin Hidalgo, Taubira, Mélenchon, Jadot. Mmh. En fait, c'est un vote préférentiel où on dit on préfère plus. Oui. On note les candidats. Il est très bien,
passable.
Ce qui fait que d'ailleurs, un candidat qui sort devant peut. En très bien, peut se faire minorer puisqu'il a le plus de votes négatifs, entre guillemets, d'appréciation négative.
Ça s'appelle un vote. Bah dans les sondages, on fait comme ça aussi.
Oui, c'est ce qu'on appelle un jugement majoritaire où on n'est pas en concurrence, mais en ligne. On va pouvoir évaluer chaque candidat.
Voilà, comme ce n'est pas le système du vote de la présidentielle, puisqu'on ne fait pas ce système-là, mais on choisit un homme ou une femme pour une fonction, déjà vous avez cette difficulté-là. Bon, ça c'est une chose. Donc, quand Hidalgo fait cette proposition-là, elle espère. Elle souhaite que Yannick Jadot rentre dans le jeu pour que finalement, il y ait un seul candidat dans ce qu'on appelle une candidate dans la gauche de gouvernement. Mmh. Bon, finalement, Yannick Jadot, il a dit très vite non, voilà. Bon, on a vu très vite, mais ça c'était le point de départ de Mélenchon, que ce n'était pas le cas. Donc finalement, le paradoxe dans cette consultation qui est la primaire populaire, eh ben, finalement, il y a plusieurs candidats qui ne sont pas candidats à cette primaire qui vont être testés. C'est le cas de Jean-Luc Mélenchon, c'est le cas donc... de Yannick Jadot, c'est le cas de Anne Hidalgo aujourd'hui. Et en sens inverse, pour des raisons d'ailleurs que moi, je n'ai pas très bien compris, c'est que ce soit M. Roussel du Parti communiste, Fabien Roussel, oui. ou Arnaud Montebourg, eux, ils n'avaient pas l'air d'avoir les bons papiers, donc eux, ils ne pouvaient
pas... Ils ne sont pas dedans.
Donc ouais. Ces deux-là se font sortir de ce jugement, ce qui est un peu particulier.
Sans aucune explication.
Il devait y avoir un désaccord sur la plateforme, parce qu'il y a une plateforme idéologique ou projet associé à ça. Voilà. Bon, donc finalement, Christiane Taubira, mais c'est un peu ce qu'évoquait Frédéric Dabi, donc elle a certainement pensé, quand elle a laissé entendre qu'elle serait candidate, qu'elle bousculerait les choses en termes de sondage. C'est pas le cas. C'est pas le cas. Là, quoi, je crois que quand elle est testée toute seule, je parle sous le contrôle de Frédéric, elle est à 5%. Et donc, elle n'a pas bousculé. Elle enlève un peu à Anne Hidalgo, elle enlève un peu à Yannick Jadot, elle enlève un peu à Jean-Luc Mélenchon. Mais ça ne fait pas la maille. Et donc, à la fin, ça fait probablement une quantité de plus, parce qu'Anne Hidalgo a dit qu'elle continuerait, Yannick Jadot a dit qu'il continuerait, Jean-Luc Mélenchon, il a dit qu'il continuerait. Donc, en fait, quand il va y avoir ce système préférentiel fin janvier, bah, ça va être entre Christiane Taubira, M. Larotourou et d'autres personnes certainement très bien. Mais en fait, tout le monde a bien compris qu'à la fin, le 29 au soir, je suis prêt à prendre un pari, une bouteille de Vouvray ou ce que vous voulez,
de
Bourgogne.
J'ai bien senti que Pierre de Vigneault était très Bourgogne.
Le 29, Bordeaux, je suis à peu près sûr que ça sera Christiane Taubira qui sortira... cette élection.
Et là, on fera quoi? Parce que c'est le postulat,
et
c'est
bah,
que
ça fera une candidate de plus. Donc voilà. Donc
comme le dit, ouvre des grands yeux.
Non, mais comme le dit, je lisais là pendant la pause de l'information un message de Julien Drey qui dit à la fin les frondeurs et Christian Paul, parce que c'est eux qui sont l'âme neuve derrière ça, ont réussi à générer une candidature de plus. Bon, bah voilà, c'est Je suis malheureux parce que dans ce qu'évoque Frédéric Dabi, les électeurs de gauche, ce qui est toujours intéressant d'ailleurs, même quand je discute avec des gens d'En Marche, il y a ceux qui viennent de la droite, ceux qui viennent de la gauche, qui ont expliqué que le clivage n'existait plus. En fait, il existe toujours. Il y a toujours cette réalité-là. Et il y a toujours 45% des Français, on ne les oblige à rien. Quand ils sont testés par Frédéric, bah, quand même, le socle est toujours 45-46. Mais l'offre électorale, la manière dont on n'a pas travaillé depuis 2017, il faut dire les choses, eh bien, conduit à ce résultat, c'est que là, on devrait avoir 46% des électeurs, ben on en a 25. Et je pense qu'on va générer du désespoir, de l'abstention par rapport à ça.
Et après puisqu'on en a parlé, pas écrite. Et puis après, puisqu'on en a parlé, il faudra les parrainages.
Oui, les parrainages.
Bah oui, et là,
oui, mais
puisque vous l'avez
Christiane
bien dit,
Taubira est soutenue.
Vous avez fait un tuto.
Non, mais Christiane Taubira est soutenue par le Parti radical de gauche, donc elle est déjà entre 200, 250 parrainages, je pense.
Et là, curieusement, voilà. Effectivement, il n'y a pas de.
Elle aura ces situations-là.
Atman Nasrou. Qu'est-ce que vous... c'est bien de regarder la concurrence. C'est toujours ça. Hein. C'est,
oui, mais on va le comprendre, parce que Philippe Doucet a certainement très très bien expliqué, j'avoue n'avoir rien compris à comment on en est arrivé là, à gauche. Et je vous le dis honnêtement, je ne m'en réjouis pas en réalité, parce que ça n'est pas sain pour le débat démocratique. On a besoin d'avoir une offre politique de la gauche... de préférence républicaine. Et moi,
c'est
je
ça,
pense
vous
que...
préféreriez avoir un débat avec une gauche, entre guillemets, de gouvernement, qu'une gauche radicale.
Ben moi, je pense surtout que la gauche, en fait, dans son affaiblissement aujourd'hui, elle est en train de payer son ambiguïté sur un certain nombre de sujets, dont ce sujet de la laïcité. Je crois qu'il y a une partie de la gauche qui est, on le voit avec Jean-Luc Mélenchon, à tourner le dos à l'universalisme et à préférer le clientélisme. Et ça, je crois que c'est ce qui explique peut-être l'affaiblissement de la gauche, et en tout cas un manque de clarté sur ce sujet-là.
C'est-à-dire quel est le prisme de la laïcité, justement quel est le parti pris de Jean-Luc Mélenchon? Comment est-ce que vous le voyez, vous?
Ah ben moi, je perçois effectivement que Jean-Luc Mélenchon, il a choisi de nourrir une forme de repli identitaire. On le voit quand il a choisi de manifester aux côtés du CCIF en novembre 2019, c'est-à-dire d'un collectif qui ensuite a été dissous par le gouvernement du fait de ses positions radicales. Anne Hidalgo disait elle-même des Verts qu'ils avaient un problème avec la République. Et donc on voit que toutes ces fractures idéologiques profondes, ben évidemment que c'est compliqué ensuite de faire l'union à gauche. Et puis j'ajouterais que pour moi, la gauche, elle est aussi déjà au pouvoir sur un certain nombre d'options. Ben oui. Ben écoutez, quand j'entends Éric Dupond-Moretti, j'ai l'impression d'entendre Christiane Taubira sur la réponse pénale, sur le sentiment d'insécurité. Et donc... on voit que sur ce quinquennat-là, il y a des vraies continuités avec le quinquennat précédent, sur la dépense publique, sur le nombre de postes de fonctionnaires. Et donc, effectivement, peut-être que c'est pour cela qu'on n'entend plus cette gauche républicaine qui est écartelée entre Emmanuel Macron aujourd'hui, qui en a repris, en tout cas pour moi, une forme d'immobilisme, et puis une gauche communautariste qui, elle, eh bien, a choisi de changer d'électorat et de jouer, en tout cas, sur des réflexes clientélistes pour s'assurer un socle électoral. Et ça, c'est très préoccupant.
Eh bien, la majorité vous répond juste après la pause. On revient dans un instant sur Europe 1.
Europe Soir Weekend, Pierre de Villeneuve.
Frédéric Dabi, directeur général de l'opinion à l'IFOP. Philippe Doucet, membre du bureau national du PS. Othmane Nasrou, porte-parole de Valérie Pécresse. Et Pierre-Jean Batty, conseiller régional d'Île-de-France, délégué Modem à Paris. Je vous donne la parole, Pierre-Jean Batty. Effectivement, à l'instant, on disait, bah, finalement, cette gauche, on l'entend. On l'entend où? On l'entend au gouvernement, puisqu'elle est bien présente. Cela dit, je ne vais pas répondre à votre place, mais il y a toujours été question qu'effectivement, la gauche existait au gouvernement, même si certains disent que, finalement, Emmanuel Macron est un président de droite.
Oui, d'abord, je voudrais dire que c'est triste l'état de la gauche aujourd'hui. C'est aujourd'hui un combat de personnes, pas du tout d'idées. La gauche est un courant de pensée qui est important, avec lequel on a besoin de débattre, justement, pour montrer quelles sont les différences qu'on peut avoir avec... Une grande partie d'entre elles. La maire de Paris dit qu'aujourd'hui, on est projet contre projet à gauche. On voit qu'en réalité, on en est loin. Et nous, face à ça, on agit et on continue d'agir. Et M. Asselineau, je suis désolé, mais on ne s'excusera pas de continuer d'agir pour les Français sur le pouvoir d'achat. Je ne pense pas que le pouvoir d'achat soit quelque chose de droite ou de gauche. C'est quelque chose sur lequel on a besoin de résultats. Et c'est ce qu'on a encore aujourd'hui avec justement l'action pour réduire la facture énergétique des Français. Sur la sécurité dans les quartiers, quand on crée des postes de policiers au contact, qu'on recrée des postes que vous avez supprimés, c'était important. C'est ni droite ni gauche, c'est juste du bon sens pour la sécurité dans nos quartiers, y compris sur l'éducation nationale. On a vu que l'école est un thème important, c'est un thème qui est au cœur du pacte républicain. Eh bien, nous avons assumé de dédoubler les classes de CP et de CE1 dans les zones d'éducation prioritaire, dans nos quartiers. C'est quelque chose d'important, qui a des résultats sur le terrain. On le voit dans les enquêtes académiques, même dans les enquêtes internationales.
Ça, c'est le bilan qu'on entend ces dernières semaines. Othmane Nasrou.
Il faudrait du temps pour répondre point par point, mais d'abord...
Vous l'avez, hein.
Bien sûr, mais écoutez, alors on ne
sait pas. Hein, dans ce cas, vous ayez un train, mais
dans ce cas, on va y aller.
Sur la gauche, on va pas.
Oui,
on peut parler de la gauche. On va pas en moment promotionnel de Valérie Pécresse. Et la pub, c'est fini, là.
Non, mais on sent qu'il y a effectivement des éléments de langage qui sont bien rodés de la part de La République En Marche. Sauf que les effectifs de police, la réalité, c'est qu'ils sont moins présents sur le terrain que sous Nicolas Sarkozy. Les effectifs ont augmenté, mais le taux d'engagement, c'est pas moi qui le dis, c'est la Cour des comptes dans un rapport de novembre 2021.
Relisez.
3 points inférieurs à ce qu'ils étaient sous Nicolas Sarkozy, que tous les indicateurs explosent. On a plus 32% de coups et de blessures volontaires.
Mais ça, vous savez pourquoi c'est fait. Vous savez que ce chiffre, il faut dire ce qu'il y a derrière.
Non, mais
vous savez que c'est notamment dû à l'action.
Attendez, pas en même temps, parce qu'on est à la radio, c'est pas comme à la télévision, on vous entend en même temps, et là, c'est
plus 30% d'escroquerie.
Othmane Nasrou.
Plus 30% d'escroquerie, plus 12% d'homicide. Et donc, la situation de la sécurité, elle se dégrade, elle s'est énormément dégradée sur ce quinquennat. Les taux d'élucidation sont en chute libre. Donc on voit que ça ne fonctionne pas, et c'est pour ça que je disais que pour moi, il y a eh bien, une sorte de décennie de gauche depuis 2012 dans notre pays, en tout cas sur ce sujet de l'insécurité, en tout cas sur le sujet de la maîtrise des flux migratoires et sur le sujet de l'explosion de la dépense publique, parce que les réformes qui auraient permis de faire des économies, notamment la réforme des retraites, n'ont pas été faites en temps et en heure. Elles ne l'ont pas été faites sur ce quinquennat-là, et c'est pour cela que je disais que pour moi, la gauche, elle est déjà au pouvoir, parce que entre François Hollande et Emmanuel Macron, je retrouve eh bien, le même immobilisme.
Alors, Frédéric David.
Alors, c'est intéressant ce que dit Othmane Nasrou. Il reprend une antienne qu'on a entendue lors de la campagne présidentielle de 2007, qui était Emmanuel Macron, c'est en fait Emmanuel Hollande. Tout ce qu'il dit peut être défendable, ce qui est vrai aussi, quand on regarde la structure de popularité et même la structure électorale d'Emmanuel Macron, c'est qu'il y a de la fluidité entre l'électorat de droite et Emmanuel Macron. Emmanuel Macron et la droite. Il y a presque un électeur sur 10 Macron 2017 qui pourrait voter pour Valérie Pécresse. On a Emmanuel Macron qui arrive à toujours bien faire revenir sur son nom un électeur Fillon sur 5. Donc c'est ce que dit Othmane Nasrou est entendable, mais c'est partiel quand on voit aujourd'hui, mais ça peut changer une campagne présidentielle, il peut y avoir des dynamiques extrêmement fortes et rapides, il y a toujours une capacité chez le président de la République à avoir un socle très solide et toujours capter un électeur de gauche et de droite. Dans le dernier rolling, il prenait un quart, par exemple, de l'électorat Hamon 2017, qui n'était pas spécialement pro-Macron.
Ouais, et c'est votre rôle, Pierre-Jean Batty, justement de retenir ces électeurs de droite qui seraient tentés maintenant d'aller chez Valérie Pécresse, alors qu'en fait, ils avaient voté Macron en 2017.
Moi, j'ai pas de rôle comme ça, mais je note, en tout cas, avec beaucoup d'ironie le procès qui est fait envers Emmanuel Macron, qui aurait une politique entièrement à gauche. Je veux dire que c'est quand même ce gouvernement qui a sorti la France de la procédure pour déficit excessif vis-à-vis de la Commission européenne. Si on a réussi à avoir ce résultat dans les trois premières années du quinquennat, c'est parce qu'on avait une politique résolument de restriction budgétaire en période de croissance, pour pouvoir justement davantage dépenser en période de crise. C'est ces deux volets qui sont celle de la politique économique, c'est celle qui a des résultats aujourd'hui en matière d'emploi. On a un record en matière d'emploi, record en matière d'apprentissage. C'est une politique qui fonctionne, qui marche.
Pourquoi vous n'êtes pas d'accord
avec Othmane Nasrou ?
Parce qu'entendre que les déficits sont maîtrisés, quand on a le record de la dette, des records de déficit, et en particulier le record du déficit de la balance commerciale, qui est un indicateur avec lequel on ne peut pas tricher. Avec le reste, vous faites de la perfusion d'argent public, on a eu une récession l'année dernière, c'est normal qu'on ait un rebond aujourd'hui en termes de croissance. Mais sur la balance commerciale, on est les derniers d'Europe. C'est-à-dire qu'on ne produit pas suffisamment. Ça veut dire que le moteur aujourd'hui, c'est uniquement de la consommation, parce qu'évidemment, on utilise le chéquier des Français pour faire des cadeaux électoraux. On en a en permanence. Et le dernier en date, c'est ce fameux chèque inflation, que nous, on aime bien appeler le chèque élection, parce qu'en réalité, faire de la dette pour distribuer un coup de pouce en termes de pouvoir d'achat, évidemment, on peut difficilement être contre, mais ça n'est pas des réformes structurelles qui aurait permis de redonner du vrai pouvoir d'achat.
Mais ces réformes structurelles,
et pas du pouvoir d'achat à crédit.
Mais ça fait 30 ans qu'on entend parler de réformes structurelles, enfin, qu'on ne fait jamais.
Le candidat Macron s'était engagé sur un certain nombre de choses. Réduire la fonction publique de 120 000 postes, il y a renoncé. Construire 15 000 places de prison, il y a renoncé.
Non. Pas des renoncements, il y en a eu à gauche, à droite.
La réforme de l'État, la réforme territoriale, il y a quand même des réformes qui sont attendues pour que notre pays ait des vraies marges de manœuvre et pas simplement
Pierre
du crédit.
Pierre-Jean-Batty.
Aujourd'hui, on avait, encore une fois, dans le New York Times, le prix Nobel d'économie, qui disait que la France avait la meilleure politique économique en période de pandémie. La meilleure. Parmi les grandes économies du monde. Donc, excusez-moi, je pense qu'il y a un peu d'humilité à avoir quand vous avez les critiques que vous semblez poindre. Il y a aujourd'hui une économie qui redémarre beaucoup mieux que nos grands voisins. On a déjà dépassé notre niveau d'emploi d'avant-crise. Alors, je sais que ce n'est pas le cas en Île-de-France. C'est le cas de toutes les régions métropolitaines, sauf l'Île-de-France. Donc là, il faudra aussi interroger Valérie Pécresse sur ce qu'elle compte faire pour la région dont elle est encore la présidente. On est encore en retard par rapport à toutes les autres régions métropolitaines, toutes. Nous sommes la dernière.
Non, mais moi, je veux bien que vous ayez pris l'habitude qu'on fasse votre travail à votre place.
Non, mais
il y a un moment.
Laissez-le parler.
L'emploi est une compétence des régions. Et donc, l'objectif, c'est vraiment de pouvoir rebondir plus vite. C'est ce qui a été fait, c'est ce qui est en place aujourd'hui, y compris en matière d'industrie. En matière d'industrie, on a arrêté l'hémorragie et on est même maintenant en train de réimplanter des sites industriels dans notre pays. Ça va être encore le cas. Vous savez qu'il y a plusieurs annonces qui vont venir, justement, parce qu'on a restauré l'attractivité de notre territoire.
Là, vous parlez du plan 2030 ou vous parlez d'autre chose ?
Je parle d'autre chose. Je parle du plan Choose France qui a été mis en place à partir de 2017. Vous savez qu'on a fait une vraie politique d'attractivité vis-à-vis des grandes industries de notre pays, y compris des industries internationales qui permettent de reconstruire des sites industriels en France et de réimplanter de l'emploi. Ça, c'est important, ça prend du temps, évidemment, mais on en a d'ores et déjà les résultats.
Philippe Doucet.
Non, moi, je voulais revenir sur la question initiale sur la logique de la gauche. il peut y avoir un rapport à laïcité. La vraie question de la gauche, c'est qu'elle a lâché en partie la question sociale. On l'évoquait pendant la publicité avec, et pendant le journal avec, avec Frédéric. Aujourd'hui, Marine Le Pen tient sur son socle de classe populaire. La gauche a fait une erreur stratégique depuis des années de lâcher les classes, les ouvriers, les employés, les classes populaires au sens large, les classes moyennes, qui ont bougé. Alors, ce n'est pas les mêmes ouvriers que dans les années 60, c'est sûr, ni les mêmes employés, mais on a ce sujet. Et donc, sur le fond, quand, quand il vous manque une partie de votre socle sociologique, parce que la gauche, c'est la question sociale. Et donc, tant qu'on n'aura pas compris ça et reconstruit ça, bien, donc il y a des propositions dans ce qu'évoque Anne Hidalgo sur le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, au-delà du chèque inflation, le pouvoir d'achat, notamment parce qu'il y a de l'inflation qui est là pour le coup, concrètement, en dehors de la hausse des prix de l'énergie, il y a aussi de l'inflation. Donc la question du pouvoir d'achat, elle est, j'espère qu'elle va être centrale. On parle souvent de sécurité, d'insécurité, d'immigration.
Elle est centrale,
mais
et je regarde
dans les
intentions,
je parle sous le contrôle de Frédéric, dans les premiers sujets, c'est le pouvoir d'achat, y compris parce qu'il y a un élément dont on parle peu et sur lequel, qui est d'ailleurs, qui vaut pour Valérie Pécresse comme pour Emmanuel Macron. Par exemple, la question du coût du logement, en Ile-de-France, c'est devenu une caricature, mais dans d'autres régions, la question du logement dans ce qu'on appelle les dépenses obligatoires maintenant des ménages, les dépenses contraintes, le coût du logement, il pèse sur le pouvoir d'achat. Je rappelle toujours qu'un Allemand, il met à peu près 18% de ses revenus dans son logement, un Français, il met 28% de son revenu. Donc du coup, c'est des éléments extrêmement importants, vous avez des écarts. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas suffisamment construit de logements, on n'a pas suffisamment construit de logements sociaux, il y a des refus, etc., etc. Et donc on se retrouve avec une hausse des tarifs de l'immobilier qui grignote le pouvoir d'achat des Français et des Français, plus les tarifs de l'énergie, les prix, même le prix du beurre. Vous voyez, le prix du beurre, bon. Donc la question du pouvoir d'achat, et je pense que paradoxalement, ça peut être l'occasion pour la gauche de reposer, de remettre la question sociale en question centrale.
On ne les entend pas. On entend des grandes phrases polémiques sur les programmes et sur les personnalités et on n'entend pas beaucoup le fond.
Vous m'entendez, là.
C'est heureusement que vous êtes là, Philippe Doucet.
Je partage ce que dit Philippe Doucet. Le pouvoir d'achat est un sujet central pour les Français. On l'a vu à la rentrée de septembre-octobre ou du fait du renchérissement des coûts de l'énergie. Dans nos enquêtes, on voyait le mot inflation revenir dans le discours des Français. Et puis, il y a eu ce retour du Covid qui fait que ça a un peu gelé les choses. Mais rien ne dit, et d'ailleurs c'est toujours sous-jacent dans le discours des Français, il y a encore une question sur le coût de l'énergie avec des tarifs d'électricité qui augmentent encore fortement, même s'ils augmentent moins que ce qui avait été, ce qui se passe dans d'autres pays. C'est un sujet qui peut être central dans une élection présidentielle, qui peut représenter un danger pour Emmanuel Macron, parce que quand le pouvoir d'achat devient central dans le discours, on va plus s'en prendre au sortant, qu'il y a un bilan, mais d'aucuns verraient comme un passif, qu'aux personnes qui veulent sa place. En 2007, c'était le premier sujet de la campagne présidentielle, mais il n'y avait pas de sortant. Maintenant, les questions sécuritaires sont aussi très fortement structurantes. On est dans une campagne qui commence à peine et qui est un petit peu sur une sorte de salle mouvant. Ça n'avance pas beaucoup parce que le Covid fige les choses, mais aujourd'hui, personne ne peut dire quel va être le sujet majeur, pouvoir d'achat ou question sécuritaire, identitaire, peut-être les deux.
Et ça, on arrive à faire le distinguo dans l'équipe de Valérie Pécresse, Othmane Nasrou ?
Bien sûr, on parlait à l'instant de pouvoir d'achat, et là aussi, on n'a pas attendu, la gauche pour en parler. Valérie Pécresse, elle porte une mesure, justement, qui est basée sur une réforme structurelle, et pas simplement sur du pouvoir d'achat à crédit. C'est une augmentation des salaires nets de 10%, mais en réduisant les charges, en particulier en transférant une partie des charges, la cotisation vieillesse, sur l'impôt, en faisant des économies. C'est pour ça qu'il faut réduire le nombre de postes de fonctionnaires, parce que nous, on dit où on va trouver l'argent, on n'ira pas le prendre sur les générations futures comme le fait Emmanuel Macron. Il y a un moment, il faut être là aussi sérieux. Et donc, nous voulons augmenter, effectivement, rapprocher le brut et le net, et c'est le poids de la dépense publique aujourd'hui qui fait qu'on a des salaires qui sont aussi bas, en particulier, effectivement, dans des régions comme l'Île-de-France, où le coût de la vie est plus élevé qu'ailleurs. C'est très difficile. Et je pense à des métiers comme dont on manque beaucoup en ce moment, aux infirmières, aux infirmiers, par exemple, parce que se loger en Île-de-France, c'est très compliqué. Parce qu'en plus, ce sont des barèmes, des grilles qui sont quasiment nationales. Et donc, il faut qu'on mette à plat tout cela. C'est des réformes structurelles dont on a besoin. Ce n'est pas simplement de la perfusion d'argent public avec de la dette.
Après, si Valérie Pécresse aurait un peu plus de crédibilité là-dessus, c'est la suppression de 100 000 fonctionnaires. Ça nous intéresse bien de savoir où elle le fait, parce que soit elle nous dit on supprime des policiers, Nicolas Sarkozy l'avait fait, soit elle nous dit on supprime des magistrats, des greffiers, soit on supprime des infirmières, des médecins. soit on supprime des profs, des instituts, mais à un moment donné, l'État, il est porté par des petits bonhommes et des petites bonnes femmes avec deux bras, deux jambes. Et donc, il faut qu'il soit quelque part.
Qui on supprime qui, Othman Nasrou?
Mais je vais vous dire, déjà, on supprime personne. On supprime des postes. Soyons clairs. Non, mais c'est important. Mais j'y viens. Ça veut dire concrètement qu'on ne remplace pas un départ sur trois à la retraite.
Oui,
c'est loin d'ailleurs entre 2007 et 2012. Mais justement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans chaque secteur, vous avez de la bureaucratie. Vous avez des échelons en trop. Vous avez une suradministration. Je vous donne un exemple. Vous avez parlé de l'hôpital. À l'hôpital, dans un hôpital français, vous avez 30% d'emplois administratifs en plus qu'un hôpital allemand. C'est la réalité aujourd'hui. Est-ce qu'on n'a pas là-dessus des processus à repenser, de la numérisation à faire?
Mais attendez,
pour faire...
Il y a des doublons. Je vais être extrêmement vulgaire, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a 30% des gens dans un hôpital qui ne servent à rien?
Il y en a 30% en plus.
Qui sont payés à rien foutre, si j'ose
dire. Non, mais on a des procédures qui sont tellement lourdes que du coup, vous avez effectivement besoin de plus d'administratifs. C'est vrai partout. En Île-de-France, à la région Île-de-France, nous avons réduit les effectifs sociaux de la région.
Vous allez donner plus de travail à ceux qui travaillent déjà sur un autre
poste? Non, parce qu'on va, par exemple, je vous donne un autre exemple, on va par exemple supprimer des doublons. Il y a des choses qui sont faites parfois plusieurs fois entre l'État et les collectivités. On va faire un travail de simplification, de débureaucratisation. Les autres pays le font.
Ça nous a déjà été promis en 2007 par Nicolas Sarkozy, qui voulait supprimer même plus de fonctionnaires, et ça n'a pas marché. C'est-à-dire que les résultats en matière de déficit.
Vous aussi, vous avez tenté d'en supprimer.
Et justement, c'est en connaissance de cause qu'on en parle. Ça ne marche pas, notamment parce que, oui, excusez-moi, mais une région et un État, c'est pas forcément le même échelon et la même gestion des ressources humaines. Et en plus, c'est discutable sur les chiffres que vous avancez. L'État, sur la région. Qu'est-ce qui a été fait? Il y a eu une vraie réduction du nombre de postes, notamment dans la police, dans les services publics entre 2007 et 2012. Et le chiffre du déficit, le chiffre de la dette, était abyssal à la fin du quinquennat. Et ça, en fait, on s'est rendu compte que ça n'avait très peu de retour. En réalité, ça fait très peu d'économies. Et c'est pour ça que je n'y crois pas une seule seconde. Surtout que votre mesure, finalement, c'est continuer ce que fait Emmanuel Macron, c'est réduire les charges sur le travail. C'est exactement ce qu'on fait depuis 2007, depuis 2017. Donc, comment est-ce que vous pouvez nous dire maintenant, aujourd'hui,
que ce serait différent,
ce n'est pas parce que vous n'avez pas réussi à le faire que ça n'est pas faisable. Je vous donne un autre élément. Nous avons 1 million de fonctionnaires en plus dans notre pays pour 16 millions d'habitants en moins par rapport à l'Allemagne. Est-ce que l'Allemagne est un pays qui est sous-administré, dans lequel il n'y a pas de service public?
On peut
faire mieux en repensant les processus. À la région, je l'ai dit, on avait 31 organismes associés, on en a supprimé la moitié en les fusionnant, en faisant de la mutualisation. C'est ce que n'importe quel organisme sait faire.
Pourquoi est-ce qu'on compare toujours avec l'Allemagne ou avec d'autres pays?
On compare avec d'autres pays. Hein. Enfin, on a le record de la dépense publique. Donc, de toute façon, et non seulement on a le record de la dépense publique, mais en plus, on a des services publics qui se dégradent. Donc, ce que nous vous propose aujourd'hui, que ce soit la gauche ou Emmanuel Macron, ça ne marche pas.
Là où je vois un manque de crédibilité, Monsieur Nasrou, on ne va pas faire tout le débat sur l'Île-de-France, mais on est tous les deux au Conseil régional d'Île-de-France. Valérie Pécresse avait promis de ne pas réduire le nombre de fonctionnaires dans les lycées, comme elle le fait aujourd'hui dans l'école, et le nombre de postes d'agents dans les lycées a été réduit d'au moins une centaine, quand vous regardez les chiffres du compte administratif de juin dernier.
Non, c'est totalement faux. C'est totalement faux.
Il faut arrêter de dire des...
On ne va pas faire un débat régional ici, mais en l'occurrence...
De toute façon, je suis obligé de marquer une pause. Il est 8h moins le quart et on a encore quelques minutes ensemble. À tout de suite.
Europe Soir Weekend.
Pierre de Villeneuve. Ah, c'est malin, il vous a fait saliver, hein, Mariotte, avec ses petits plats. Bah, ça tombe bien, il y a encore quelques minutes avant l'heure du dîner. Et on va parler avec le conseiller régional d'Île-de-France, délégué Modem à Paris, Pierre Jean-Batty, porte-parole de Valérie Pécresse, Othman Nasrou, membre du bureau national du PS, Philippe Doucet, et Frédéric Dabi, directeur général de l'Opinion à l'IFOP. Alors, ces derniers jours, ces dernières, j'allais dire 48 heures, on a senti quand même des tensions entre Édouard Philippe, qui était censé marquer le territoire avec ce grand parti Horizon, et Emmanuel Macron, qui, on l'a présenté aussi de cette manière-là, avait choisi Édouard Philippe comme une sorte de rabatteur qui pourrait aller s'ancrer dans les territoires pour pouvoir aller convaincre des élus, pour pouvoir rejoindre cette République en marche. Édouard Philippe qui donnait sa loyauté, qui la redonne encore. Et quand on demande aujourd'hui même à Édouard Philippe ce qu'il en pense, et voilà ce qu'il répond.
Et moi, je développe Horizon et je suis extrêmement heureux si toutes celles et ceux qui ont envie de nous rejoindre le font. Voilà. Le reste, c'est du temps perdu. Moi, ça ne m'intéresse pas. J'avance en grande loyauté avec le président de la République et en totale détermination sur ce que je souhaite faire, dont je parle depuis longtemps et que je fais exactement comme j'avais indiqué que j'allais le faire.
Bon, alors c'est assez énigmatique comme déclaration, c'était hier à Guérande.
Philippe bon, bah là, pour les auditeurs, là, il y a un morceau de langue de bois, mais alors du beau bois, du beau chêne français. Là, bon. En fait, alors puisque.
Décryptage.
Ah, parce que je suis
le tuto. Allez, le Philippe tuto Philippe de la
semaine. Il faut lui donner Julien Blanc, il me ferait un petit jingle
voilà, pour le tuto, s'il vous plaît, merci, ça sera sympa.
Non, mais ce qu'il faut que. Qu'est-ce que Emmanuel Macron a en tête, comme Édouard Philippe? Parce qu'après la présidentielle, personne ne le voit aujourd'hui, il y a des élections législatives. Et donc, aujourd'hui. Pourquoi Édouard Philippe n'est pas content? Parce que Emmanuel Macron a bloqué la fusion avec un parti de centre droite qui s'appelle Agir.
Franck la majorité. Ouais.
Pouvez-vous dire, il n'y a pas beaucoup d'auditeurs qui connaissent et Franck Riester et Agir.
Bon, il est ministre. Hein, quand
il
même.
Est ministre. Enfin bon, tous les ministres sont pas. Si on fait un test, ça n'a pas le résultat n'a pas été terrible. Et donc simplement Riester, aujourd'hui, ouais. Agir a les moyens financiers puisque il a des députés. Et donc il a des moyens financiers. Et la fusion avec Horizon, le parti d'Édouard Philippe. Permettait d'avoir, de donner à Édouard Philippe des moyens financiers pour se développer. Mais Édouard Philippe, lui, qu'est-ce qu'il veut? Il veut un groupe parlementaire, Horizon, au moment des élections législatives. Et comme Emmanuel Macron n'est pas né de la dernière pluie, eh bien, il a prévu de donner les investitures au lendemain de l'élection présidentielle. Il n'y aura pas un candidat en marche de désigner avant le deuxième tour de la présidentielle. Et donc, il veut que Édouard Philippe soit fort, mais pas trop fort, parce que pourquoi? Parce qu'il ne veut pas se retrouver avec une majorité relative s'il gagne, avec dedans, tenu par Édouard Philippe. Et donc ce frottement-là, vous allez l'avoir.
Quelque chose à rajouter
oui,
au tuto, Frédéric
Je prolonge le tuto parfait de Philippe. Modestement, il y a un autre élément. Si Emmanuel Macron remporte l'élection présidentielle, vu que depuis la loi constitutionnelle de 2008, un président n'a pas le droit d'exercer plus de 2 mandats de suite, il peut en faire plusieurs, mais espacés dans le temps, se posera... question alors bien sûr,
de la pérennité
de la succession, de l'héritage. Et c'est vrai que Édouard Philippe a été
donc
un premier ministre.
C'est win-win, comme on dit en business.
Exactement, qui a été apprécié par les Français, qui a quitté Matignon dans une logique d'état de grâce, qui est encore premier dans notre baromatif fiducial pour match des personnalités préférées des Français. Et voilà, Emmanuel Macron, peut-être, veut avoir la possibilité d'avoir, de pouvoir... gérer cette période, sachant que, il faut le dire aussi, Horizon, personne ne connaît, Agir, peu de monde aussi, l'avis des organisations partisanes intéresse quand même que très modérément les Français. Les Français aiment qu'on leur parle d'eux-mêmes. Et d'ailleurs, une petite parenthèse, si on revient sur le débat sur la gauche, pourquoi la gauche est inaudible aujourd'hui? Parce que les seules thématiques que les Français entendent de la gauche, c'est union, pas union, primaire populaire, des mécanos
et
électoraux
pas fond,
et pas les vrais thèmes.
On n'entend pas
et donc,
le fond,
et là, ce dans ce que dit Frédéric, parce que c'est la première Philippe fois, Bousset. Si Emmanuel Macron était réélu, que la réforme constitutionnelle de 2008 s'appliquerait, parce que du coup, ça serait le premier président qui fera un deuxième mandat de 5 ans. Et donc, il se retrouve dans la situation du président américain, quand les Américains ont une expression qui s'appelle le « line duck », le canard à qui on a coupé la tête, en fait. Le canard qui court comme ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, le pouvoir du président de la République qui est réélu, en fait, il peut très vite diminuer dès le lendemain de son élection. Et en fait, Édouard Philippe, il est déjà dans le coup d'après, il est même déjà dans le coup d'avant, puisqu'il pense déjà à ça depuis un moment.
Bon, alors que dit la majorité, Pierre-Jean Batty?
Il y a deux sujets. Il y a en effet le rassemblement derrière le président de la République qui est réel. Édouard Philippe a redit toute sa loyauté.
Enfin,
puis il y a le deuxième
dit,
sujet.
Entre les
non, mais j'y viens.
Ah, ouais.
Non, mais sur la loyauté, il ne l'a pas dit, entre les dents. Il l'a redit depuis le début du quinquennat.
Chacun son appréciation.
Il y a aucun problème. Non, mais il y a un deuxième sujet. C'est pour ça que je pense qu'il ne faut pas mélanger les deux. Il y a le deuxième sujet qui est celui de la construction d'un grand mouvement central. Auquel on a participé, on était à la mutualité tous ensemble. Et là, en effet, Édouard Philippe, finalement, il avait déjà exprimé ses hésitations, je vous parle en toute transparence, donc ce n'est pas forcément nouveau sur cet épisode-là, puisque vous l'avez à plusieurs reprises expliqué les raisons. Mais ce qui, moi, m'importe, en effet, c'est de parler aux Français, c'est ce soutien et cette unité qu'il y a derrière le président de la République, qui reste entière. Et on est aujourd'hui unis. Je vous parle de quelqu'un qui est sur le terrain avec l'ensemble des partenaires de cette majorité présidentielle. On est unis pour défendre le bilan d'Emmanuel Macron, du président de la République, auquel Édouard Philippe a largement contribué, participé. Et donc c'est en toute cohérence, en toute logique, qu'aujourd'hui on est rassemblés pour défendre ce bilan.
Othmane Nasrou, quand vous entendez Pierre-Jean Batty?
J'aimerais y croire parce que ça me rassurerait, mais ça ne me rassure en réalité pas du tout, puisque voir un ancien Premier ministre être en bisbille avec le président de la République, qui visiblement n'arrive pas à tenir sa majorité, et on l'a vu à de multiples occasions, avec, rendez-vous compte, le mouvement du Premier ministre qui suspend sa participation à la majorité, Alors quand on nous donne, nous, des leçons de morale, de discipline collective sur tel ou tel vote, parce que, bon, ils ont voté abstention plutôt que pour, etc. Enfin, là, on est quand même à un autre niveau. C'est une majorité en carton. C'est une majorité de façade qui n'a pas de ligne politique parce qu'elle ne dépend que d'un seul homme. Elle a été élue sur un seul nom. Ça peut aller un moment, mais au bout d'un moment, on voit qu'il y a derrière un vrai problème de ligne politique. Et donc tout cela ne tient à pas grand-chose. Et je ne crois pas qu'on puisse gouverner durablement le pays avec une majorité aussi fragile. Et encore une fois, ce qui s'est passé ce week-end, c'est quand même une information politique majeure et qui en dit long, encore une fois, sur la fragilité de cette majorité.
Pierre-Jean-Baptiste, pourquoi est-ce qu'on a empêché la fusion d'Agir et d'Horizon ?
Moi, je ne suis pas du tout dans ce type de discussion, pour moi, à mon avis.
Si, moi, je vous pose la question.
Il y a des responsables politiques, je pense qu'ils se sont exprimés dans des deux cas.
Oui, enfin, on a juste une fuite de Franck Riester qui aurait dit « parce que le président n'a pas voulu que je le fasse ». Mais on aimerait bien savoir pourquoi.
Le sujet aujourd'hui,
comment
c'est
à deux reprises.
Ouais. Donc bon, voilà, c'est quand même assez étonnant. Est-ce que je vous posais la question. Est-ce que ça vous chagrine ?
Moi, je fais partie d'aucune de ces.
Vous lavez les mains.
De ces mouvements-là.
Et vous on avait non, comme mais c'est Pilate, en fait.
C'est pas l'enjeu, comme je dis. Il y a deux enjeux.
Bah,
il y a un enjeu, c'est
l'unité.
Parce que
parce que ça vous fait plaisir.
Mais non, l'union fait la force, enfin.
Si jeunes et nous faire déjà de la langue de
chaîne. Non. Parce que moi, je vous dis. Ce que je vois, moi, au quotidien, vraiment au quotidien, c'est vraiment un rassemblement avec des personnes d'Agir, des personnes de l'ensemble de ces formations-là. Et on est tous rassemblés à défendre le bilan aujourd'hui. Et on espère tous qu'Emmanuel Macron va annoncer sa volonté de se représenter. C'est ça, la réalité des choses.
Vous le voyez comment, vous, cette paroi-là entre Agir et Horizon ?
Mais pour l'instant, elle ne dit rien à la plupart des Français. Ce qui va compter, c'est quand même le résultat de l'élection présidentielle et le rapport de force qui sortira.
On se demande pourquoi est-ce qu'il y a eu cet ordre.
Oui, enfin,
parce que Agir, c'est pas non plus.
Non, mais il y a quand même beaucoup d'élus, mais il ne faut pas être grand clair pour voir le souhait d'Emmanuel Macron d'avoir un équilibre entre. Le pôle Canal historique, si je puis dire, En Marche, et ce pôle Horizon. Et Horizon plus Agir, ça aurait créé peut-être un début de déséquilibre.
Emmanuel Macron, il faut aussi qu'il gère un monsieur qui s'appelle François Bayrou, qui ne voit pas très bien non plus la constitution de ce autre pôle qu'est Horizon, avec en plus, il y avait eu Agir dedans. Donc il faut qu'il gère entre Canal historique, le MoDem et Horizon. Donc, voilà, si Emmanuel Macron il est réélu, il aura un deuxième mandat compliqué d'un point de vue parlementaire.
Oui, d'ailleurs, on a vu que quelqu'un qui l'avait soutenu en 2017, je pense à Alain Minc, a dit cette fois-ci qu'il ne le soutiendrait pas parce qu'il doute de sa capacité à pouvoir gouverner le pays dans la durée, y compris.
Je crois qu'il n'a jamais joué le gagnant à une
présidentielle. J'ai trouvé cette analyse intéressante.
C'est un peu le chanois.
On vous laisse avec plaisir.
Rendez-vous compte quand même qu'on est en train de parler d'un président de la République qui applique toujours cette stratégie du diviser pour mieux régner. On l'a vu à de multiples occasions. Donc il divise sa propre majorité pour ne pas avoir effectivement à dépendre d'Édouard Philippe. C'est quand même surréaliste, sachant que c'était son Premier ministre pendant 3 ans. Il n'est pas à l'écoute d'Édouard Philippe. Ça ne m'étonne pas donc qu'il ne soit pas à l'écoute des Français.
Bon, en attendant, il a rejoint Emmanuel Macron alors qu'il était dans votre camp. Pierre Jean-Baptiste.
Et moi, en une phrase, une majorité aujourd'hui, elle est solide. Elle n'a jamais été autant solide. Si vous reprenez les dernières majorités, il n'y a jamais autant de personnes qui votent aujourd'hui la confiance du gouvernement. Moi, j'appartiens à un mouvement, le MoDem, qui reste un pilier de la majorité et qui est totalement loyal au président de la République. Il n'y a absolument aucune fragilité dans cette majorité.
Frédéric Dabi, Pierre Jean-Baptiste, Othmane Nasrallah, Philippe Doucet, je vous remercie tous. Je vous souhaite une bonne soirée.